Bonsoir à tous. Moi, je suis très heureux de présenter ce sujet devant vous. Donc, c'est le sujet de la transmission. Voilà, c'est un sujet qui me travaille depuis un petit moment. Voilà, je vais essayer de vous proposer quelque chose que j'ai trouvé dans la parole, quelque chose dans lequel, finalement, il me semble, il y a des petits points pratiques que l'on peut finalement mettre chacun de notre côté dans nos différentes églises et avancer pour pouvoir proposer, pour pouvoir, comme on a chanté, aller ensemble vers quelque chose et grandir et apprendre à mieux se connaître. Alors la transmission, donc on a cette image avec justement ce témoin, ce relais, quelque chose que l'on passe à quelqu'un d'autre. Alors le sujet de la transmission, c'est très vaste et ce ne sera pas celui-là. La transmission automobile, ce ne sera pas du tout ça qu'on va étudier. Ce ne sera pas non plus celui-ci. La transmission, voilà, on va dire, de voyance, etc., des choses que l'on peut donner. C'est dommage, c'est un sujet intéressant aussi, mais une autre fois peut-être. Et par contre, le sujet qu'on va utiliser et qu'on va traiter, c'est celui-ci, le bagage. Qu'est-ce que finalement, dans ma vie, je vais amener, qui va être transmis à quelqu'un. Voilà, sur cette petite valise, il y a plein de destinations différentes avec des images. Et si je prends un petit peu juste une autre image, quand vous regardez une photo, souvent en fait, quand on regarde une photo, qu'on prend le temps de se rappeler quelque chose, ça nous rappelle quelque chose de notre vie. Quelque chose de joyeux peut-être, quelque chose de plus triste parce qu'on a perdu quelqu'un et qu'il n'est plus avec nous sur cette photo, mais il reste quelque chose, une marque, une empreinte qui nous aide finalement à nous dire, voilà, j'ai fait un bout de chemin, j'ai avancé dans quelque chose. Ça peut être un bagage avec toutes ces belles étiquettes, mais on peut aussi avoir ça à l'intérieur, c'est-à-dire finalement avoir un bagage vide et se dire, mais voilà, comme peut-être des fois dans différentes églises, on entend, mais l'autre apprendra tout seul finalement. Il apprendra par lui-même. Il va construire sa relation avec Dieu et il va apprendre quelque chose. Alors, je vais vous dire de suite, personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Je vais essayer de le démontrer dans ce que je veux, dans ce que je veux mettre en avant. Voilà, cette idée que finalement, le bagage, soit il est plein de quelque chose, soit il est plein de vide, soit il est creux. Soit finalement l'autre se débrouille tout seul pour apprendre des choses, mais il me semble que Dieu nous a donné une responsabilité et on va réfléchir ensemble avec ce plan sur la transmission. La première chose, la nécessité de transmettre. Voilà, on va réfléchir. Je vais prendre un texte qui va peut-être éclairer un petit peu la situation. Puis ensuite, des pistes pour bien transmettre avec un autre texte, ou plutôt une lettre, dans laquelle une personne parle à une autre personne et lui donne des propositions, des choses bien concrètes pour pouvoir avancer. Et enfin, parce que ça va quand même nous concerner, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est là pour qu'on puisse agir et comprendre quelque chose. On va voir ensemble qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, avec ce qui va ressortir de ce texte, on peut dégager pour pouvoir faire quelque chose dans nos églises et partir dans des propositions. Donc, nécessité de transmettre, on va lire un texte qui est dans les Juges, au chapitre 2, versets 6 à 14. Et Josué renvoya le peuple, et les fils d'Israël s'en allèrent chacun à son héritage pour posséder le pays. Et le peuple servit l'Éternel tous les jours de Josué et tous les jours des anciens, dans les jours se prolongèrent après Josué, et qui avaient vu toute la grande œuvre de l'Éternel qu'il avait faite pour Israël. Et Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Et on l'enterra dans les limites de son héritage, à Timnan-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaès. Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères. Et après eux, se leva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et servirent les Baals. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils marchèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, et se prosternèrent devant eux. Et ils provoquèrent à colère l'Éternel, et abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et Astoreth. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et les livra en la main des pillards qui les pillèrent. Et il les vendit en la main de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus se maintenir devant leurs ennemis. Alors moi, je suis resté scotché la première fois que j'ai lu ce texte, où finalement, au verset 10, on apprend qu'il y a une autre génération qui se lève qui ne connaissait pas l'Éternel. Et là, on se dit, waouh, c'est le peuple de Dieu. Et on va voir qu'il y a un ensemble de recommandations qui font qu'il est pour moi impossible finalement de ne pas connaître l'Éternel personnellement. J'en ai pris quelques-unes. Recommandations pour le peuple. La première, c'est la Pâque. On va lire les textes, on va prendre un peu de temps. Et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour les enfants à toujours. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce service ?», il arrivera que vous direz « C'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Donc la première chose, on a une fête, et cette fête, en fait, elle est censée rappeler quelque chose. Et quand l'enfant ou la génération qui ne connaît pas les choses va poser la question, le père ou le responsable est censé répondre les choses qui ont été marquées pour expliquer à quoi ça servit, en fait. À quoi sert cette fête? Deuxième chose, on a la traversée du Jourdain dans Josué. Et il arriva, quand toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, que l'Éternel passa à Josué disant, « Prenez d'entre le peuple 12 hommes, un homme de chaque tribu, et commandez-leur, disant, « Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de là où se sont tenus les pieds des sacrificateurs, 12 pierres, et vous les transporterez avec vous, et vous les poserez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Et Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés d'entre les fils d'Israël, un homme de chaque tribu. Et Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et levez chacun de vous une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des fils d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque dans l'avenir vos fils demanderont, disant, que signifient pour vous ces pierres? Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et les fils d'Israël firent comme Josué avait commandé, ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des fils d'Israël. Et ils les transportèrent avec eux au lieu de leur campement et les posèrent là. Et Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient tenus les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche d'alliance. Et elles sont là jusqu'à ce jour. Voilà un deuxième texte où il s'est passé un événement particulier. Et les pierres, elles sont là pour rappeler cet événement particulier. Les pierres, elles vont être là à vie, finalement. Et chaque fois que, finalement, quelqu'un va passer devant et que ben, l'enfant va poser la question, le père doit répondre ça, en fait. Il doit répondre, voilà ce qui s'est passé ce jour-là, etc. Troisième chose, dans Deutéronome, on a une loi. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur ta main et elles te seront pour fronton entre les yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Encore une fois, on a une loi qui est là, complète, qui est là pour faire vivre finalement un peuple ensemble. Et dans cette loi, il y a cette volonté de Dieu de dire, il faut que la génération qui suit l'entende en fait. Ça sert à quelque chose. Ce n'est pas juste pour appliquer des règles précises. Au contraire, c'est quelque chose dans lequel finalement le père, la mère ont une responsabilité pour pouvoir transmettre quelque chose. La lecture publique. Et Moïse écrivit cette loi et la donna au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Et Moïse leur commanda, disant, « Au bout de 7 ans, au temps fixé de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, à leurs oreilles. Tu réuniras le peuple, hommes et femmes et enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il entende et afin qu'il apprenne et qu'il craigne l'Éternel, votre Dieu, et qu'il prenne garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi, et que leurs fils, qui n'en auront pas eu connaissance, entendent et apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, tous les jours que vous vivrez sur la terre ou en passant le Jourdain, vous entrez afin de la posséder. » Là, on a une exhortation à lire publiquement, un jour précis, finalement, quelque chose. Et l'idée est toujours la même, en fait. Elle est là pour entendre, apprendre, craindre, connaître. Et la dernière, il y en a d'autres, hein, mais voilà, je les ai regroupés comme ça. Un cantique. « Et maintenant, écrivez ce cantique et enseigne-le aux fils d'Israël. Mets-le dans leur bouche, afin que ce cantique me serve de témoignage contre les fils d'Israël. » Là, encore une fois, on a la volonté d'un Dieu qui dit, il y a ce cantique qui est là pour rappeler les choses et pour mettre, en fait, finalement, le témoignage de dire, voilà, moi, je m'engage. Et vous, vous vous engagez? Et si je résume, on a une fête, un lieu, une loi, une tradition, un cantique. Et vous vous rappelez le texte du début, dans les juges, ils ne connaissaient pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait faite. Avec tout ça, je suis désolé de le dire, pour ce peuple, c'est l'échec. C'est l'échec collectif. C'est l'échec. Les juges, c'est le début finalement de la fin de ce peuple qui a été conduit par Moïse, qui a eu un autre leader qui est venu derrière, qui est Josué, qui a pris la suite. Et à la suite finalement de Josué, il y a tout un cheminement où on continue à garder ces choses, mais on sent que petit à petit, voilà, on commence à faire des trous à l'intérieur en disant « Oh, c'est pas si grave que ça » ou « Oh, on peut laisser faire ». Et finalement, en fait, on ouvre des brèches et à la fin, il y a un oubli total, il y a un abandon de l'Éternel, il y a une génération qui ne connaît même plus en fait ce Dieu et qui, parce qu'il ne connaît pas ce Dieu et parce qu'il ne connaît pas ce qui s'est passé, décide de se tourner vers autre chose. Ben, les gens d'à côté, ils ont des choses intéressantes. On va les tester aussi finalement, ces dieux qui sont là, qui leur font du bien parce que quand ils demandent quelque chose pour la terre, ils ont une réponse, etc. Voilà, on est dans cette optique de dire, voilà, c'est pas parce qu'il y a une tradition, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est construit que dans le temps, en fait, finalement, il y a un profit. On voit que le résultat, c'est un échec. C'est un échec total de collectif de ce peuple qui va se détourner, qui va faire des erreurs, qui va revenir, qui va refaire des erreurs et qui finalement sera mis de côté pour un certain temps. Pour moi, elle est là la nécessité de transmettre. Pour moi, elle est là la volonté de se dire, le dimanche matin, quand on regarde les gens qui sont en face de nous, quand on regarde finalement se dire qu'il y a des jeunes qui sont là, qu'il y a des gens peut-être pour la première fois qui rentrent dans une église, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de savoir en fait. Peut-être qu'il y a des choses dans lesquelles finalement, peut-être qu'on n'est pas capable de leur expliquer en fait. Peut-être qu'on n'est pas capable de leur expliquer pourquoi on fait les choses. Et je crois en fait que ce texte, il est là pour un petit peu comme un garde-fou de nous dire mais attention en fait, attention. Transmettre, ça a du sens. Quelle est la part finalement de ce que l'on transmet dans une église à quelqu'un qui vient pour la première fois, à des jeunes, quelle est la part que finalement on met dans toutes ces choses? Et je crois que voilà, il faut réfléchir. Ce n'est pas une accusation. C'est simplement de se dire concrètement, est-ce qu'il existe quelque chose qui nous aide à avoir un ensemble de choses dans lequel aujourd'hui on peut se dire, mais oui, peut-être que la part que l'on accorde dans notre église aux jeunes, elle n'est pas si importante que ça. Et voilà, je crois qu'il faut envisager les choses autrement. Et je vous propose finalement de se dire, première conclusion pour moi, la foi ne vient pas de nulle part. La foi, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, de nulle part. Et je propose un texte qu'on trouve dans Timothée. C'est Paul qui dit ça pour Timothée, me rappelant la foi sincère qui est en toi et qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. Voilà, ça ne vient pas de nulle part. La foi, c'est quelque chose qui se construit. La foi, c'est quelque chose qui finalement se vit, se transmet. Et je vous propose des pistes pour bien transmettre, de réfléchir ensemble sur cette deuxième épître de Timothée, avec cette idée que pour moi, la deuxième épître à Timothée, c'est un peu comme un testament. C'est-à-dire finalement, c'est la dernière lettre de Paul qui est en prison, qui se rend compte en fait que sa course, elle s'arrête. Et comme au début de l'exposé, il y avait cette image du témoin que l'on donne, Paul donne ses dernières volontés finalement à celui qui, pour lui, peut continuer à travailler et à transmettre ce qu'il a compris et ce que Dieu lui a permis de vivre. Je vous en propose trois d'axes. Vie intérieure, vie sociale, perspective. Vie intérieure, moi je l'ai intitulé « Bâtis ta vie intérieure ». Vie sociale, agis malgré la difficulté. Perspective, garde le cap. Et c'est là-dessus qu'on va un petit peu réfléchir avec, je ne prendrai que des textes dans l'épître de 2 Timothée. Et on va voir qu'il y a une richesse, je n'ai pas tout pris, qui nous permet, il me semble, voilà, de se dire, on a cette possibilité d'avancer dans ces directions, de proposer des choses. Et la première des choses, c'est bâtir ta vie intérieure. Et à l'intérieur, il me semble que pour bien bâtir sa vie intérieure, ce que Paul va dire à Timothée, c'est d'avoir des convictions. Se forger des convictions intérieures. La deuxième chose, c'est s'habituer à vivre par l'esprit. Et la troisième, être satisfait du parcours que Dieu nous donne. Des convictions. Et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour, qui est dans le Christ Jésus. Un modèle. Et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Paul invite Timothée à avoir des convictions, à avoir un modèle, quelque chose dans lequel il peut s'appuyer. La deuxième, étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la vérité. Voilà. Ta responsabilité, c'est d'être approuvé par Dieu. Ta responsabilité, finalement, c'est d'exposer justement la parole de la vérité et de ne pas avoir honte. Fais ce que tu as compris. Troisième chose, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. On a un Paul qui dit à Timothée, mais arrête d'avoir peur en fait. Ce que tu as compris, avance. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. Deuxième chose, vivre par l'esprit. Il va lui dire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Voilà. Il va lui dire, Timothée, tu as l'esprit de Dieu. Tu n'es pas seul dans ton église. Tu n'es pas seul dans la difficulté. Tu n'es pas seul dans la mission. Tu as Dieu qui est avec toi. Par son esprit, arrête de craindre. Avance. La deuxième chose, garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Voilà. Construis un ensemble de choses, le bagage. Construis quelque chose dans lequel finalement, l'Esprit va te montrer tranquillement ce que tu as à comprendre. Dernière chose, le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voilà, n'aie pas peur. Ce que tu n'as pas compris, Dieu te le montrera. Voilà. Si tu fais mal, Dieu te montrera. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Troisième chose, pour la vie intérieure, être satisfait. Il va lui dire, prends part aux souffrances de l'Évangile. Arrête de te cacher. Voilà. Oui, effectivement, on est dans l'Empire romain. Effectivement, tu es en train de dire que l'Évangile, c'est une bonne chose, que croire finalement en Jésus et dire qu'il est le roi, c'est des choses qui ne plaisent pas forcément du tout à l'empire sur lequel on est et tu risques d'être persécuté. Mais prends part aux souffrances de l'Évangile. La deuxième chose, Paul va lui dire, mais voilà, moi je suis en prison. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. Troisième chose, mais toi sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Et si je le résume, on a cette image que j'ai choisie de l'arbre. La première chose, des convictions. On met ses racines au sol. La deuxième chose, vivre par l'esprit, avec cette flèche qui va dans les deux sens. Je me nourris de l'esprit, l'esprit me nourrit. Troisième chose, être satisfait. Oui, c'est un cerisier, il me semble. Je suis un cerisier, je ne suis pas un pommier, en fait. Donc, je donnerai ce que je peux donner. Ce que l'autre donnera, c'est son problème. Moi, ce que Dieu m'appelle à faire, c'est ça. Et je le fais. Deuxième chose, agis malgré la difficulté. Je vous propose trois choses aussi qui m'ont touché dans cet épître de Timothée. Se préparer à passer le flambeau, construire avec l'opposition, donner un modèle. Se préparer à passer le flambeau. Il va dire, les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, commêlez-les à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. Et là, on retrouve un petit peu l'image de ce peuple qui avait cette responsabilité collective de faire connaître. Voilà, Paul dit à Timothée, ce que tu as compris, tu le dis aux autres. À ceux qui sont capables de l'entendre et d'instruire et qui, à leur tour, finalement, seront capables aussi d'avoir des convictions et de les transmettre aux autres. Deuxième chose, mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis, poursuis. Fuis, finalement, toutes ces choses qui te font perdre du temps et poursuis, c'est-à-dire cherche ceux qui sont fidèles. Voilà. Troisième chose, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres. Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres. Là, ça fait réfléchir, je trouve, sur finalement, qu'est-ce qu'on transmet dans nos églises aux enfants, aux adolescents. On a des groupes de jeunes, on a des groupes de jeunes adultes. On a tellement de choses et finalement, tu connais les saintes lettres dès l'enfance. C'est-à-dire, voilà, un ensemble de choses qui font, qui donnent la maturité et qui permettent finalement de grandir et d'avancer vers une conviction profonde que Dieu existe et qu'on peut à son tour donner cette conviction à quelqu'un d'autre. Construire avec l'opposition, alors j'ai mis toutes ces propositions et je me suis dit, pour que ça soit un peu plus, peut-être plus explicite, j'ai proposé un tableau que voici. Il est peut-être petit, non, vous voyez, c'est bon. On a à chaque fois une recommandation de Paul et à chaque fois la raison de la recommandation. Il va lui dire, voilà, pour construire avec l'opposition, c'est compliqué. C'est compliqué d'être avec des gens qui n'ont pas envie d'être avec vous ou qui finalement ne recherchent pas la même chose que vous ou qu'il est difficile de construire ensemble. Il va lui dire, pas de dispute de mots. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun profit. Voilà, ça, c'est l'expérience d'un homme qui est passé par là, qui dit à Timothée, mais ça ne sert à rien en fait, tu perds ton temps si tu fais ça. Comprends, moi je l'ai fait, j'ai perdu mon temps. Donc je te donne quelque chose, maintenant tu en fais ce que tu veux, mais je te dis, pas de dispute de mots. Pourquoi ? Aucun profit et en plus, ça bouleverse la foi des auditeurs. Évite les discours vains et profanes. Parce qu'en fait, quand on donne du prix à ces choses, bah, la personne qui propage ces choses, finalement, c'est comme la gangrène. C'est-à-dire que ça commence à monter et petit à petit, ça fait pourrir le membre et il faut couper la gangrène. Donc, du coup, il y a cette idée que les discours vains et profanes, il ne faut pas leur donner du crédit, en fait. Troisième chose, évite les questions folles et insensées. Pourquoi ? Parce que ça provoque des contestations. Encore autre chose, il lui dit, mais ne conteste pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'esclave du Seigneur ne conteste pas. Ensuite, il va avoir une recommandation particulière, dire « doux envers tous, enseignant avec douceur les opposants ». Dans quel but ? Ben Paul sait très bien en fait que, voilà, comme lui, qui a été dans un chemin où il pensait servir Dieu, à un moment donné, sur le chemin de Damas, Dieu l'a arrêté. Il a reçu cette lumière qui lui a permis finalement de comprendre quelque chose et de changer de chemin. Et le mot repentance, en grec, c'est métanoïa, qui veut dire changement de pensée ou changement de compréhension. Et en fait, il est en train de dire que quand on enseigne avec douceur les opposants, ben, il faut le faire. Parce qu'on ne sait jamais, voilà, la repentance, pour reconnaître la vérité, il y a cette possibilité qu'à un moment donné, l'autre en face dise « mais bon sang, je me suis trompé, je n'avais pas compris les choses comme ça ». Et je trouve que c'est très beau de le comprendre comme ça. Je trouve que c'est beau de la part de Paul de prendre le temps d'expliquer à Timothée toutes ces choses et de lui dire « mais voilà, aujourd'hui il est opposant, peut-être que demain il changera de façon de penser ». Mais ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'enseigner avec douceur les opposants. Détourne-toi de tels gens, il y a quand même des recommandations. Pourquoi ? Parce que finalement, ça permet de ne pas laisser entrer les loups dans la bergerie. Voilà. Il y a des choses qui sont dites, où il y a des choses, où il y a des comportements. Là, c'est le comportement d'hommes qui viennent et qui détournent d'autres personnes de la foi. Voilà, il y a cette idée qu'il ne faut pas s'associer à ces gens-là. Ensuite, prêche, insiste, convainc, reprend, exhorte. Il y a tous ces mots pour dire qu'il faut le faire. Pourquoi ? Parce que sinon, les gens vont choisir les faux docteurs. C'est-à-dire ceux qui leur donnent finalement cette possibilité de, voilà, d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et il est là, il dit, mais il faut prêcher, insister, convaincre, reprendre, exhorter. Et enfin, le dernier, il dit, garde-toi aussi de lui, d'une personne en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte opposition à l'Évangile. Ça, ce tableau que j'ai fait, je pense que personnellement, je vais le prendre, le recopier et je vais le mettre en gros sur mon frigo ou sur un placard pour le regarder. Et chaque fois en fait, que je vais être en colère ou énervé ou finalement en difficulté avec frères et sœurs dans l'église ou dans d'autres milieux, regarder et se dire, voilà, je crois que ce que Paul met en avant le plus, c'est l'humain. Paul, il met l'idée de dire, le plus important, c'est la relation. Le plus important, c'est d'être ensemble. Ce n'est pas qu'on soit d'accord, mais c'est d'être ensemble. Dernière chose, un modèle. Voilà, Paul se pose en modèle. Les choses que tu as entendues de moi, considère ce que je dis. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Voilà, un modèle. Je résume un peu cette image de cette manière. Se préparer à passer le flambeau, cette main qui est derrière, cette main qui ne sert à rien et qui pour autant n'a qu'une volonté, préparer les choses pour pouvoir attraper et agripper la paroi. La deuxième, celle qui est dans la souffrance actuellement, celle qui est là, qui construit avec l'opposition, qui souffre, qui a mal, mais qui est avec. Et troisième, le modèle, ce gars merveilleux qui est musclé et qui monte une paroi à main nue, qui finalement donne le cap, qui donne le modèle à suivre. Et je crois que ça, ça doit nous faire réfléchir de se dire que Paul se pose en modèle pour Timothée en disant « mais fais comme j'ai fait ». Est-ce que dans nos églises, on a des modèles, des gens qui nous disent, ben voilà, il faut que tu fasses les choses comme ça, il faut que tu avances dans cette direction. Troisième chose, garde le cap. Choisis de faire le bien. Prends ta part de souffrance. Le fruit vient plus tard. Choisis de faire le bien. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Paul est en train de dire, mais arrête de te prendre la tête. Ce que tu dois faire, fais-le. Après, ce qui se passe à côté, ce n'est pas ton problème. Si l'autre fait mal, c'est son problème. C'est lui qui aura à régler les choses devant Dieu. Toi, ta responsabilité, c'est de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Tu n'es pas responsable du mal qu'on te fait. Tu es responsable du bien que tu peux faire aux autres. Et tu dis, toi, te présenter approuvé à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'être approuvé à Dieu. Et tu dis, toi, te présenter approuvé à Dieu. Et oui, Paul est en train de rappeler à Timothée qu'il a une conscience. Et cette conscience, Dieu l'éclaire et nous montre là où on a marché avec lui et quand on ne le fait pas bien. Ben, si on est malléable dans sa main, alors à ce moment-là, on a cette possibilité d'entendre ce que Dieu veut nous dire et d'être capable de changer de chemin. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Voilà, cette idée que y a un travail à faire. Il y a un travail pour plaire à Dieu, finalement. Pas parce qu'on plaît à Dieu pour avoir quelque chose, mais au contraire, parce qu'on a compris qu'en fait, le cadeau qu'il nous donne, il est tellement bon qu'on veut le partager aux autres. Et du coup, on veut rester dans cette dépendance de quelqu'un qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Prends ta part de souffrance. Je souffre, mais je n'ai pas honte. Voilà. Je crois que bien souvent, il me semble dans nos vies, on souffre, mais on se cache. Ou on ne dit pas qu'on souffre. Mais voilà. Paul, il dit clairement, je souffre, j'ai mal. C'est dur d'être en prison, c'est dur d'être tout seul, c'est dur finalement d'être, il le dira, abandonné par tous, etc. Mais je n'ai pas honte. C'est-à-dire finalement, mais voilà, c'est Dieu qui contrôle ma vie, c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui m'a amené là où j'en suis. Mais j'en ai pas honte, j'ai fait ce que Dieu m'a appelé à faire. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Voilà, chacun a une part à prendre. La part de Timothée, c'était à la fois de conduire ou d'être quelqu'un de moteur dans une église et de l'autre, organiser aussi et continuer à être évangéliste. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis surtout, cette troisième chose, et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Voilà, il y a cet avertissement qui est là aussi pour nous de dire que si on veut vivre pleinement les choses avec la qualité de vouloir vivre quelque chose devant Dieu, alors déjà à cette époque et encore aujourd'hui, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Donc finalement, souffrir, ça a un sens aussi dans ces choses. Souffrir, ça a un sens dans la main de Dieu. Et il en fera ce qu'il veut. Troisième chose, ça on a du mal, personnellement. Le résultat, on le veut tout de suite. Le résultat, on veut qu'il soit immédiat. Le résultat, on veut qu'il apporte du fruit. Le résultat, on veut le voir. Parce que sinon, on ne s'engage pas dans un chemin. Mais Paul, il dit tout le contraire à Timothée. Il lui dit, le fruit vient plus tard. Il lui dit qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. Deuxième chose, le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. Troisième chose, il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. L'agriculteur, il sait que pour obtenir ce qu'il pousse dans son pré, il faut qu'il travaille énormément d'abord pour ensuite éventuellement obtenir quelque chose. Et remarquez, ce jour-là, jusqu'à ce jour, et ensuite, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Voilà, il y a cette idée que souffrir, ça a un sens dans la main de Dieu, et puis il y a une récompense, régner avec lui. Le Christ Jésus va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne. Voilà, il y a aussi cette espérance de dire qu'un jour, tout sera juste. Quand Jésus reviendra, les choses seront clairement posées et établies. va juger vivant et mort, et par son apparition, c'est le mot parousie, ce qui veut dire le retour du roi, et par son règne. Un règne, c'est un roi qui règne sur un, qui est établi sur un royaume. Dernière chose, j'ai combattu le bon combat, voilà. Ça, c'est certainement la dernière phrase de Paul, qui fait le bilan un petit peu de sa vie, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là. » Et on est toujours dans cette même perspective de ce jour-là, un jour bien précis. Et il me semble que le jour dont il parle, c'est le jour où il vient justement pour établir son royaume. Cette idée en fait qu'un jour, Dieu dira « Voilà ce qui a été bien, voilà ce qui n'a pas été bien, voilà vos récompenses. » Et maintenant, avec ce que je vous donne dans les mains, faites quelque chose. On a cette idée que Paul voit plus loin que finalement le chemin dans lequel il est. Il pourrait voir une prison, il pourrait se voir dans une prison romaine. Alors, on en fait toujours une image un petit peu magnifique, mais les prisons romaines, ce n'était pas forcément les choses les plus faciles à vivre. Il est tout seul, il a abandonné. Et pour autant, il y a cette perspective qui est là de dire « je vois plus loin ». Je vois derrière le chemin, je vois ce qu'il en est. Et je donne finalement à la personne qui va suivre la même chose. Je lui donne ce modèle. Je lui montre en fait que même en prison, en fait, ça ne change rien en fait. Qui c'est qui contrôle les choses dans nos vies? Est-ce que c'est nous? Non, c'est Dieu. Si Paul a compris que s'il était en prison, c'est parce que Dieu le permet en fait. Et puis s'il dit « je sers de libation », c'est-à-dire finalement « je sers de sacrifice », ben voilà. Mais moi, ce que je préférerais, c'est rester ici. Mais si Dieu m'appelle, c'est encore meilleur. Voilà. Et donc, on a cette idée d'un Paul qui donne un modèle et qui est là et qui dit « Timothée, ce que tu vis aujourd'hui, c'est compliqué. Ce que tu vas vivre, peut-être, ce sera extrêmement douloureux. Par contre, aie cette perspective que le plus important, c'est ce jour-là. Ce jour où finalement, toutes les choses seront justes, le fruit vient plus tard. Donc, ne travaille pas au fruit. Travaille plutôt finalement à faire les choses devant Dieu et c'est Dieu qui produira le fruit ce jour-là. Et si je le résume avec cette petite image de barre de capitaine, choisis de faire le bien. Prends ta part de souffrance, le fruit vient plus tard. Ça, c'était pour notre texte, le texte de Timothée. Maintenant, on va essayer de prendre juste, j'ai pris deux, trois choses dans cette épître pour trouver aujourd'hui des choses dans lesquelles, voilà, concrètement, aujourd'hui en 2019, on peut agir pleinement dans nos églises pour faire quelque chose. Là où on est, dans la position où on est, dans le rôle que l'on a, on a tous à faire quelque chose, puisqu'on est tous modèles finalement de quelqu'un. Des réflexions pour aujourd'hui. Donc sur la vie intérieure, voilà, avec ma femme Natacha, on s'est posé les questions, on s'est dit mais comment on peut faire pour essayer un petit peu d'accompagner quelqu'un qui entre peut-être pour la première fois dans une église ou peut-être un jeune qui ne connaît rien, voilà, ou qui a une Bible ou qui n'en a pas ou qui est celle de ses parents, etc. Ou finalement une personne qui vient de se convertir et qui veut en savoir plus. Comment on peut faire pour finalement aider quelqu'un dans sa vie intérieure? Voilà ce qu'on a trouvé. Pourquoi? Parce que ça donne, il me semble, des convictions, les racines. Voilà. Personnellement, je vais parler un petit peu de moi quelques minutes. Moi, j'ai été heureux toute ma vie finalement de rencontrer toujours, de demander à Dieu de le connaître un peu plus personnellement, d'avoir le temps de le rechercher. Voilà, parce qu'on peut être célibataire et se dire le temps passe. Mais en même temps, on peut se dire aussi, c'est un temps que Dieu met à part pour faire quelque chose. Et j'ai pris ce temps pour travailler à mieux connaître Dieu à travers des formations bibliques. Et je suis heureux finalement de me dire que ces formations-là m'ont permis d'avoir des convictions qui me permettent aujourd'hui, finalement, avec ma femme, d'accueillir des jeunes chez nous une fois par mois. On a fait ça pendant un an. On va recommencer ça l'année prochaine, scolaire en tout cas. Et de leur donner des bases, quelque chose, pour se rendre compte en fait que la foi ne vient pas de nulle part. Oui, ils sont nés peut-être dans des familles chrétiennes, oui, peut-être ils ont entendu des choses, mais ce n'est pas garanti en fait. Si on n'a pas des convictions, si on n'arrive pas à acquérir par soi-même les choses, moi personnellement, j'ai été avec beaucoup de jeunes dans une église où il y en a beaucoup qui sont partis dans d'autres chemins. Et pour autant, on a été élevés dans la même foi chrétienne. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ça dépend certainement de l'individu, mais ça dépend aussi de notre responsabilité, il me semble, collective, de pouvoir apporter à quelqu'un des convictions. Et il me semble qu'une des responsabilités de l'Église, c'est d'apporter ses convictions, de donner les moyens à un jeune converti, à quelqu'un qui veut savoir plus, à quelqu'un qui veut connaître, de l'accompagner avec quelque chose de précis pour acquérir des compétences qui lui donneront, il me semble, une vie intérieure beaucoup plus riche. Agir malgré la difficulté. Comment préparer demain ? Demain ne nous appartient pas. Mais pour autant, il me semble que Dieu nous a placés sur la terre pour faire quelque chose. Et s'il nous a placés dans une église, ou en tout cas qu'on a choisi d'être dans une église, dans un cadre particulier, c'est qu'on a quelque chose à y faire, chacun. Et il me semble, voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà entendu, mais comment on prépare demain ? Il me semble que c'est construire quelque chose ensemble, un projet d'église. Quelque chose dans lequel, finalement, on réfléchit ensemble sur notre possibilité de vivre, de faire le point, de se dire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans notre église ? Concrètement, qu'est-ce qu'on aimerait faire ? Concrètement, qui on a pour pouvoir, qu'est-ce qu'on a comme spécificité ? Et ensemble, de dire, mais voilà, ça permet de vivre quelque chose de collectif, ça permet de rechercher, non pas les dons, mais les capacités de chacun, et de voir ensemble et d'avancer ensemble dans un projet collectif. Il me semble que c'est une belle définition aussi de l'Église. Et si je réfléchis au texte des Actes, au début des Actes, il y a un projet. Le projet, c'est d'évangéliser, de faire connaître. Le projet, c'est d'avoir des activités qui permettent d'aller vers le peuple. Et ces activités, elles sont reconnues utiles pour tout le peuple. Et on a cette possibilité de vivre collectivement une église ensemble, de prier ensemble. Voilà. Comment on prépare demain ? C'est en donnant, il me semble, la possibilité à des jeunes, à de jeunes convertis, de prendre des responsabilités. Et voilà, il me semble que l'Église, les anciens, pasteurs ou autres, ont cette responsable, ou s'il n'y a pas d'organisation, mais de réfléchir ensemble sur comment demain, en fait, finalement, l'Église va être construite, comment elle va grandir. On a vu que si on ne fait rien, comme dans le texte des juges, du début des juges, alors on a ce petit à petit, ces choses qui vont être attractives, en fait. Si on n'explique rien, si on ne prend pas le temps un dimanche matin d'expliquer ce que c'est la scène, si on n'explique pas un baptême, à quoi ça sert le baptême, finalement, ce sont des choses dans lesquelles, il me semble, on peut se retrouver en difficulté et perdre finalement ce projet collectif. Voilà. Comment on peut faire préparer demain projet d'église ? Et enfin, dernière chose, comment on permet à un jeune ou jeune converti ou autre de garder le cap ? On a cet exemple dans Timothée, fuis, poursuis. Fuis, poursuis. Nous, on s'est posé la question aussi, comment on fait pour finalement garder le cap ? Comment on donne à un jeune la possibilité de rester dans le chemin que Dieu veut le voir rester ? Avoir un vis-à-vis. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai goûté aussi dans mon plus jeune âge. Il y avait toujours quelqu'un, un frère ou une sœur, avec qui finalement on pouvait avoir ce face-à-face, cette chose qui fait du bien, où on ne se sent pas ni jugé pour ce que l'on est, ni pour ce que l'on fait, mais au contraire, on échange, on apprend finalement à avoir voilà, ce regard bienveillant envers l'autre. Et il me semble que ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place, si peut-être que ça existe déjà dans différentes églises, quelqu'un en particulier qui accompagne une personne et qui l'aide à grandir. Ça peut se compléter avec aussi la formation biblique qu'on a vue au départ. Mais cette idée de, voilà, de l'aider à garder le cap, de l'aider à avoir un chemin. Voilà pour cette réflexion, voilà pour ces choses pour aujourd'hui. Et je voulais terminer simplement avec ce verset de Josué qui dit « Et maintenant, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité. Et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Et Josué va dire « Et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. » Mais lui va s'engager. Il va dire clairement « moi je veux être un modèle pour déjà ma famille. » Et puis aussi, bah, si d'autres sont intéressés par ce chemin, qu'ils le prennent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà cette idée qu'on peut choisir. Comme on a dit au départ, avec cette valise, elle peut être pleine, elle peut être utile à l'autre, ou finalement, on va lui dire, mais non, mais tu apprendras tout seul par ton propre cheminement les choses et on ne te transmet rien. Ou finalement, comprendre, comme Josué, qui a finalement transmis quelque chose, qui a permis au peuple de tenir encore, avec des anciens qui ont continué dans la même optique que lui. Voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'espère que voilà, cette réflexion sur la transmission est quelque chose qui peut-être vous a un petit peu interpellé. Personnellement, j'aime beaucoup l'Église. J'aime beaucoup les choses qui se font. J'aime beaucoup aussi l'idée de, voilà, de voir grandir des jeunes. On a accompagné un jeune qui s'est baptisé. Ça, c'est chouette de vivre ça. C'est chouette de l'accompagner et qui ait ce désir de s'engager après les choses que l'on met en œuvre. Alors, ça fait partie peut-être des petits résultats que Dieu nous permet de voir. Mais par-dessus tout, il me semble que voilà, comprendre qu'ensemble, on peut faire quelque chose d'utile et d'avancer avec lui, c'est merveilleux de se dire qu'on peut transmettre quelque chose et que Dieu nous appelle à le faire. Merci de votre attention.
Merci à toi.